Vous écoutez France Musique.
La petite musique des livres, bonsoir à tous et bienvenue. La petite musique des livres, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour écouter des écrivains, leurs voix, leurs mots, leur lecture et leur musique. Une heure donc pour parler d'écriture, d'atmosphère, d'inspiration, d'influence et de correspondance. Une heure pour explorer l'univers de deux romanciers. Dans cette seconde émission, il sera question d'autobiographie. Écriture de soi, écriture sur soi. L'autobiographie est un genre mouvant, riche et sans cesse renouvelé. Journal intime, compilation de souvenirs, auto-analyse. L'autobiographie surprend, se métamorphose et peut être aussi, paradoxalement, une façon de dire le monde, de raconter une histoire collective, de mettre en scène une époque. Et c'est ce qui nous intéresse chez les deux auteurs que nous écoutons aujourd'hui, Laura Alcoba et Jean Rouault. En août 2013, Laura Alcoba a publié chez Gallimard « Le bleu des abeilles ». Comme dans un de ses précédents livres, « Manège », Laura Alcoba a puisé dans ses souvenirs de petite fille pour écrire ce nouveau roman. Elle raconte ici comment, à 10 ans, elle a dû quitter l'Argentine, son pays natal, pour rejoindre sa mère, déjà réfugiée en France, alors que son père restait à Buenos Aires, en prison. C'était au début des années 70 et la petite fille s'est retrouvée du jour au lendemain dans la banlieue parisienne, sous le statut de réfugiée. Et elle a dû affronter non seulement un nouveau pays, mais surtout une nouvelle langue, le français, qui est la sienne aujourd'hui. Dans ce travail de mémoire tout en finesse, l'expérience personnelle est un révélateur de l'histoire collective, la douleur des Argentins qui fuyaient la dictature et s'exilaient en Europe. Dans de courtes scènes de la vie quotidienne, Laura Alcoba raconte la honte d'être montée du doigt dans sa nouvelle école ou de ne pas savoir s'exprimer correctement, tout simplement la peur de ne pas trouver sa place dans son nouveau pays. Stolen Moments d'Olivier Nelson, un choix de Laura Alcoba.
Thank you. Dans ses lettres, mon père recopie en espagnol des passages entiers de la vie des abeilles. La vida de las abejas, comme il dit. C'est important qu'il écrive comme ça, car de même qu'il n'a le droit de lire qu'en espagnol, mon père n'a pas le droit d'écrire dans une autre langue, pas même un mot. Pour moi, c'est la même chose. Quand je lui envoie des lettres, je n'ai pas le droit d'y glisser ne serait-ce qu'un tout petit bout de français. C'est que notre correspondance est épluchée par les services de sécurité de la prison, aussi bien les lettres qui y entrent que celles qui en sortent. Or, rien ne doit pouvoir leur échapper. Mais moi, je sais bien que le titre du livre de Maurice Maeterlinck est « La vie des abeilles » et qu'il est divisé en 7 grandes sections, dont la première n'est pas « En el umbral de la colmena », mais « Au seuil de la ruche », ce qui est plus étrange à mes oreilles, mais tellement plus joli au fond. J'ai le livre sous les yeux, je suis là pour tout vérifier. D'ailleurs, les passages que mon père recopie en espagnol, je les retrouve sans trop de difficulté dans mon petit volume aux feuilles jaunies, dont je garde souvent de minuscules débris sur les doigts, on dirait du sable de papier. Mon père ne se contente pas de reproduire des passages entiers de la vie des abeilles. Il les commente avec des phrases très compliquées que j'ai quand même l'impression de comprendre un peu parfois. Moi, j'évite de me lancer dans de longs exposés. J'aurais trop peur de dire des bêtises. J'essaye juste d'échanger un peu à propos des abeilles pour lui montrer que je joue le jeu, que je suis bien en train de lire le même livre que lui, comme il me l'a demandé. Puis je recopie dans mon petit carnet en français certains des passages que mon père a trouvés les plus intéressants, les plus beaux ou les plus mystérieux et qui me plaisent aussi. Comme ce bout de phrase que j'ai souligné avant même que mon père ne m'en parle dans l'une de ses lettres. Peut-être parce que c'est un des rares passages du livre que je n'ai pas eu besoin de relire en me triturant les méninges. J'avais tout compris du premier coup. Le bleu est la couleur préférée des abeilles.
Deshojaba noches esperando un mar que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en seno. Flor de lis, claro destino, truncaba un camino de lirios en flor. Deshojaba noches cuando le esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino y un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya me falta su amor. tranquera, por donde el recuerdo vuelve a la querencia. El remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta, flor de lino, te veo el estrella y alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba anoche cuando la esperaba como yo la espero, llena de esperanza como un gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino en un campo argentino maduro de sol, y la hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor. Se fue, y hoy que el campo está en flor, Amalaya, me falta su amor.
Flor de lino par le Cuarteto de Cedrone, un groupe de musiciens argentins exilés à Paris dans les années 70, comme vous, Laura Alcoba. Pourquoi vous nous faites écouter ça? C'est de la nostalgie ou c'est en fait une sonorité qui vous habite toujours, finalement?
Bon, d'abord, c'est un tango que j'adore. que j'ai découvert par eux. Ce n'est pas un tango très très connu, même si il a été composé par Exposito, qui est l'auteur de tangos très célèbres, comme Naranjo en Flor, encore une histoire de fleurs. La Flor de Lino n'est pas son tango le plus connu. J'aime beaucoup ce tango que j'écoute souvent. Il se trouve qu'en cherchant à quoi ressemblait une fleur de lin, j'ai découvert qu'elles étaient bleues. donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais... c'est étonnant, Juan Cedrón, qu'on appelle aussi le Tata Cedrón, le chanteur, a ses admirateurs et ses détracteurs. Bon, moi, je fais partie de ses admiratrices inconditionnelles. Il a une manière très prononcée de chercher cette voix tanguera. Peut-être qu'elle est plus accentuée encore que chez les chanteurs qui sont restés en Argentine, parce que c'est une voix qui se cherche dans l'exil. Et moi, ça me touche beaucoup. On a l'impression qu'il cherche cette voix des bas-fonds qui caractérise le tango. Je trouve très, très touchant, très émouvant qu'elle se soit affirmée, qu'elle ait trouvé sa particularité dans l'exil, loin de Buenos Aires, mais dans la recherche de Buenos Aires. Et puis ce tango, particulièrement, il se trouve qu'il a un sujet bizarrement rural. Les paroles parlent de la campagne, d'un gaucho, d'un gaucho qui n'a pas su reconnaître l'amour et le garder auprès de lui. C'est pas un tango très ancien, mais il va puiser son inspiration aux origines même du tango, quand Buenos Aires n'était pas la capitale qu'elle a été par la suite. La lisière entre la ruralité, la ville, c'est quelque chose qui me touche, qui est très surprenant. En même temps, un tango très, très tango hein, dans sa composition. Mais voilà, ces paroles rurales sont curieuses, étranges. C'est vraiment un tango à part.
Oui, puis vous nous dites que c'est quelque chose qui s'est créé dans l'exil et dans votre littérature. C'est intéressant parce qu'on voit dans ce texte que vous venez de nous lire quelques phrases en espagnol. Mm-hmm. C'est étrange d'avoir des phrases en espagnol au milieu d'un texte français. Comment vous les introduisez? Comment ça se passe, ce passage entre deux langues pour vous?
Je suis toujours entre deux langues. Je dirais que le Bleu des abeilles explore cela. C'est peut-être un des principaux sujets du livre, le passage entre deux langues. Et en même temps, Peut-être qu'on entend mieux le français ou on le perçoit mieux quand on s'en éloigne, quand on le regarde de l'autre rive. De la même manière pour le tango, là, pour le coup, Flor de Lino, par le Cuarteto Cedrón. Peut-être qu'on comprend quelque chose du tango un peu mieux quand on joue le tango à Paris. De la même manière, il me semble que on perçoit des choses à la fois de sa langue maternelle, en l'occurrence pour moi l'espagnol, et de la langue dans laquelle on s'était enraciné, pour moi le français, quand on se décale un peu, quand on va voir un peu sur le trottoir d'en face.
Et j'ai vu que c'était un groupe qui était connu aussi pour avoir mis en musique des textes littéraires,
oui.
De la poésie, ce qui est assez rare. C'est ça aussi qui vous intéresse, cette espèce de passage entre littérature et musique chez eux ?
Oui, la voix fait que les paroles ont une place vraiment de premier plan, la voix de Juan Cedrón. Oui, ils ont beaucoup de compositions originales. Ce n'est pas le cas là, hein. C'est un tango, je crois, des années 50 peut-être, mais ce n'est pas une composition qui leur est propre, mais ils ont beaucoup exploré du côté de la poésie. Oui. Il y a beaucoup de poèmes chantés, très beaux. Ils ont travaillé avec Paco Ibáñez aussi. C'est un tango littéraire et de l'exil, oui, c'est vrai. Donc peut-être que ce sont deux choses qui me touchent, oui.
En janvier dernier, Jean Roux a publié « Un peu la guerre » aux éditions Grasset. C'est le troisième volet d'un travail autobiographique commencé en 2011 avec « Comment gagner sa vie honnêtement ». Ce délicieux nouvel opus est un précieux document pour tous ceux qui s'intéressent à cet auteur, devenu célèbre du jour au lendemain lorsqu'il a décroché le Goncourt 90 avec son premier roman, « Les Champs d'honneur ». Ici, il raconte ses années de fac, au début des années 70, alors que l'université française avait décrété que le roman était mort, ce qui tombait assez mal pour celui qui, justement, se rêvait romancier. Alors nous accompagnons le tout jeune homme, grandi dans un territoire rural, qu'il est bien le dernier aujourd'hui à continuer à appeler Loire inférieure. Territoire rural peuplé de fantômes et de rituels ancestraux. Territoire rural qui, confie Jean Rouault aujourd'hui, a façonné son imaginaire. Avec cette autodérision qui n'appartient qu'à lui, Jean Rouault raconte son combat pour écrire, pour trouver sa place dans la littérature d'aujourd'hui, accéder à sa personnalité d'auteur et dire à sa façon le monde et le siècle, leur changement et surtout, surtout, le temps qui passe.
Il me fallut cependant peu de temps pour me convaincre de cette impossibilité du roman. Dès les premiers cours, il était entendu que le roman était un genre bourgeois, ce qu'il fallait entendre comme nocif et périmé. Bien que sortant d'un milieu qui voyait le mal partout, et spécialement du côté des progressistes, notre vieille tante Marie veillant à ce que n'entrent pas dans la maison des magazines pour la jeunesse édités par la presse communiste, comme Vaillant ou Pif le Chien, je n'eus pas besoin de cours de rattrapage pour comprendre que dans la hiérarchie des calamités du temps, la bourgeoisie venait juste avant les grandes épidémies, ou peut-être après, et que le roman bourgeois n'était qu'un moyen d'asservissement des masses, une reproduction fidèle et acceptée d'un système dominant qui était le système des classes. Autrement dit, que le miroir tendu au monde par le roman n'était pas l'instrument du changement, mais de sa perpétuation. Ce que je n'aurais pas formulé alors d'une manière aussi précise, ayant du mal avec la rhétorique révolutionnaire que maîtrisaient quelques jeunes gens chevelus qui s'entouraient le cou d'interminables écharpes tricotées mains tombant jusqu'à terre, mais c'est confusément ce que je ressentais. Du moins, je me rappelle l'avoir reçu ainsi. Alors que ce passage d'un monde traditionnaliste au bouillonnement révolutionnaire aurait pu avoir les conséquences d'un choc thermique, ce qu'il fut, sans doute préparé par un côté mauvaise tête et un esprit de contradiction dont on me faisait reproche, dans le désir aussi que la vie fût autre chose que ce que j'en vivais, ce fut pour moi une libération, et j'en sais gré aux jeunes gens aux longues écharpes descendant jusqu'aux pieds. Bien que ne saisissant que des bribes de leur rhétorique, quand ils apostrophaient des amphis pleins à craquer noyés dans la fumée des cigarettes, je comprenais qu'il me fallait d'urgence revoir mes positions, celles de mon héritage catholique et rural, pas du tout en phase avec la période qui s'annonçait. Il m'expliquerait mieux plus tard les fondamentaux du matérialisme historique. Dans l'immédiat, qu'il me sorte de cet état d'arriération. I'm not afraid to die.
to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime.
Fleet Foxes, White Winter Hymnal, un choix de Jean Rouault.
Thank you.
Cottage in the Landscape, dans la version de Francesco Tristano. Jean Rouault, c'est assez logique comme choix, il me semble, un compositeur connu pour être un des pères de ce qu'on a appelé la musique expérimentale, pour nous parler d'un texte où vous racontez la mort du roman, et vous nous racontez surtout vos propres débuts d'écrivain, vos propres expérimentations.
C'est vrai que tout le siècle se confronte comme ça à la remise en cause de tous les genres dominants, de toutes les expressions artistiques. Et ce qui est émouvant dans ce morceau de Cage, dont on connaît évidemment après toutes les expérimentations radicales, c'est-à-dire il donne un concert sans notes, il convoque tout le monde dans son appartement à New York, il ouvre les fenêtres et c'est les bruits de la rue qui font le concert. Et c'est très surprenant de savoir qu'il est passé aussi par cette phase-là, c'est-à-dire de constater qu'on ne peut plus aller plus loin que ça dans ce genre musical-là, avec cette idée d'une musique harmonieuse, qui parle au cœur, ce genre de choses. Et quand on entend In a Landscape, c'est une sorte de musique terminale, d'adieu mélancolique à cette musique-là, ce qu'on pouvait attendre de la musique. La musique, déjà avec Stockhausen et puis avec Stravinsky, a commencé à se défaire, à se déconstruire. Et là, lui raccroche in extremis à cette dernière idée d'une musique harmonieuse. Et radicalement après cet adieu, il se lance dans ses expérimentations. Par exemple, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va avec la musique Sergel, etc. Et lui passe du côté directement du timbre. La musique est partout. Ce qui renvoie à Beuys, qui dans le même temps dit que tout le monde est artiste et que c'est sa contribution à lui en tant qu'artiste. Et ça correspond aussi pour l'écriture à cette période où on renonce à l'idée du style, par exemple. C'est Barthes qui met ça en scène dans le degré zéro de l'écriture. Dans ses premiers textes, un recueil de textes publiés sur une vingtaine d'années, il parle encore du style. Et puis on va associer le style au genre bourgeois, etc. Et il va le remplacer par l'écriture. Autant le style a un côté élitiste, puisqu'on se démarque par un certain talent, puisqu'on le reconnaît. L'écriture, c'est évidemment un terme neutre. Tout le monde écrit, et du coup, on ne fait plus de différence entre une carte postale et Proust. Donc l'écriture avait ce côté comme Beuys tous artistes, comme Cage ouvrant les fenêtres et disant voilà, la musique est partout. Il y avait cette profonde remise en cause de ce sur quoi on avait vécu, de ce sur quoi la création et l'art avaient vécu depuis sans doute la nuit des temps. Alors une fois que tous ces morceaux-là sont à terre, comment on fait pour reconstruire quelque chose? Et moi je viens de cette génération-là, où après la déconstruction du roman, après la mort du roman, la mort de l'auteur, la mort du sujet... Comme malgré tout, il y a toujours des histoires à raconter, comme il y a toujours cette aspiration à la création, il y a toujours des gens qui pensent qu'on peut vivre un peu plus haut que soi et exprimer un peu plus haut que le modèle courant. Et bien du coup, ça oblige à chercher et puis à modestement, humblement essayer de recomposer quelque chose avec les débris.
Oui, mais justement, vous parlez de recomposer. Est-ce qu'on peut continuer le parallèle entre un compositeur et un écrivain? C'est-à-dire, est-ce qu'on compose une phrase comme on compose un morceau de musique?
Il y a de ça, parce que dans la phrase, il y a l'harmonie de la phrase. Une phrase, c'est sonore. On l'a bien vu, justement, au moment où il n'était plus question de formuler une phrase cohérente, on a utilisé les phonèmes. En poésie, ça a été le lettrisme. En musique, c'est les oratorios de Xenakis, etc. Et donc, la phrase a à voir avec le chant. Et le chant a évidemment à voir avec l'émotion, avec le tremblement. Simplement, la phrase a des contraintes syntaxiques, grammaticales, et quand on s'affranchit de ces contraintes-là, alors elle ne dit plus rien. Au lieu que la musique, une fois qu'elle s'est affranchie des règles de contrepoint classique, elle a pu aller vers le timbre, vers le rythme, vers des expressions comme ça qui étaient moins traitées dans cette première manière mélodieuse. Mais l'art a pu s'affranchir de la représentation du monde. Il a pu même s'affranchir du cadre de la toile et des peintures. La littérature ne peut pas s'affranchir des contraintes de la grammaire et de la syntaxe, sinon elle ne dit plus rien. Donc c'est la contrainte. Alors comment faire chanter une phrase avec ces contraintes-là? On se dit malgré tout qu'à travers les siècles, avec globalement les mêmes règles d'écriture, de syntaxe, de grammaire, etc., globalement, on peut reconnaître une phrase de Racine, d'une phrase de Marivaux, d'une phrase de Flaubert, d'une phrase de Proust ou de Chateaubriand ou de Céline, etc. Donc il y a quand même de grandes possibilités. Simplement, il y a aussi le modèle dominant en littérature qui est celui du roman royaliste, qui a imposé aussi un type de syntaxe, que j'ai l'habitude de résumer en disant « la plage était noire de monde », qui fait qu'assez spontanément, on attend quelque chose de cet ordre. Et que dès qu'on s'en prend un peu trop aux règles de la narration, parce que ce n'est pas simplement les règles de la syntaxe, c'est aussi les règles de la narration. Ça bouscule le lecteur qui parfois a un peu de mal à s'y faire. On voit bien quelqu'un comme Claude Simon, que moi je trouve admirable, a peu de lecteurs en fait.
Une autobiographie à l'autre de la Loire inférieure à l'Argentine, l'univers maintenant de Laura Alcoba. Lucia di la mer mort de Donizetti, interprétée par Maria Callas, avec l'orchestre symphonique du RIAS de Berlin sous la direction de Karajan.
Les E muets me fascinent depuis le début. Je les ai aimés dès les premiers cours de Noémie, à La Plata, dès que mon professeur de français m'a fait découvrir le premier d'entre eux, celui qu'elle cachait au bout de son prénom. Une voyelle muette. Quand on ne connaît que l'espagnol, on ne peut pas imaginer que de telles choses existent. Une voyelle qui est là mais qui se tait, ça alors? J'étais plus que surprise, littéralement abasourdie. Et comme exaltée soudain, je voulais tout savoir à propos de la langue qui était capable de faire des choses pareilles. J'ai aimé mon premier e-muet comme tous ceux qui ont suivi. Mais c'est plus que ça en vérité. Je crois que, tous autant qu'ils sont, je les admire. Parfois, il me semble même que les e-muets m'émeuvent au fond. Être à la fois indispensable et silencieuse, voilà quelque chose que les voyelles en espagnol ne peuvent pas faire, quelque chose qui leur échappera toujours. J'aime ces lettres muettes qui ne se laissent pas attraper par la voix ou alors à peine. C'est un peu comme si elles ne montraient d'elles qu'une mèche de cheveux ou l'extrémité d'un orteil pour se dérober aussitôt. À peine aperçues, elles se tapissent dans l'ombre. À moins qu'elles ne se tiennent en embuscade. Même si je ne les entends pas, quand on m'adresse la parole, j'ai souvent l'impression de les voir. Et plus j'apprends le français, plus vite je les repère. Parfois, j'imagine que les voyelles muettes me voient aussi. De mieux en mieux, me semble-t-il, à mesure que j'avance. Comme si elles avaient également appris à me connaître. Comme si, depuis leur cachette, elles avaient une attention pour moi. Un regard, un geste, une manière de me rendre l'appareil. J'aime nous imaginer dans cette communication silencieuse. J'en viens à me sentir en connivence avec l'orthographe française. Et j'adore ça.
Le jardin féerique, extrait de Ma Merloy de Ravel, interprété par Philippe Entremont et Laura Micola. Ma Merloy que Ravel avait composé à partir de contes pour enfants. J'imagine que l'univers de l'enfance, Laura Alcoba, il a fallu vous replonger dedans pour écrire Le Bleu des Abeilles.
Oui, j'ai essayé de chercher la voix de l'enfant, c'est pas évident. Alors bien sûr, c'est un voyage dans le temps, un voyage dans les sensations. Moi, j'ai l'impression que les enfants vivent les choses plus intensément souvent que les adultes parce qu'ils n'ont pas toujours les mots pour mettre les sensations et les émotions à distance. Du coup, on est pleinement immergé en fait dans les émotions et dans les sensations. C'est un peu ce que j'ai cherché quelquefois à dire dans Le Bleu des abeilles, comme je l'avais cherché différemment, mais aussi autour de la voix de l'enfance dans mon premier roman, dans Manège. Ravel, oui, là pour le coup, ma mère Loi, c'est aussi cela. Enfin, je l'entends, je l'écoute de cette manière, particulièrement ce jardin féerique.
Mais la voix de l'enfance, c'est aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que vous retrouvez de temps en temps des phrases, vous écrivez pas comme une petite fille, mais vous retrouvez dans les phrases le ton de la petite fille, l'étonnement par exemple, on l'a entendu.
Oui, l'étonnement, alors c'est une difficulté quand on dit voilà, écrire l'enfance, qu'est-ce que c'est ? Bien entendu, c'est moi qui écris aujourd'hui, donc cette narratrice ne s'exprime pas comme s'exprimerait une petite fille de 10 ans exactement, mais l'idée c'est d'essayer de capter les sensations de l'enfant, de les dire avec mes mots d'aujourd'hui, avec ce que je peux faire avec la langue française aujourd'hui, mais à hauteur d'enfant, en essayant de capter cette intensité-là, si particulière de l'enfance. Pour moi, c'est une question d'intensité et la capacité de s'émerveiller aussi. Tout est nouveau, il y a plein de premières fois dans l'enfance. Et les premières fois, les premières rencontres, comme la première rencontre avec un e-muet, voilà, on s'en souvient. Je suis fascinée par l'intensité de la découverte et des premières rencontres. En tant qu'écrivain, mais en tant aussi que lectrice, et, bon, j'aime beaucoup la musique, j'essaye de cueillir, de rechercher ailleurs cette intensité-là, qui pour moi est liée à l'enfance, comme on l'entend, je crois, dans cette pièce de Ravel.
Mais justement, la musique a quelle place dans votre travail ? Je veux dire, vous écrivez en musique, vous écoutez ?
Alors, il m'est arrivé d'écrire en musique mon deuxième roman, Jardin Blanc, où il y a des pages qui sont vraiment nées directement de l'écoute de musique, en l'occurrence de Frank Sinatra, puisque il y a des pages sur Frank Sinatra. Donc là, ce sont presque des notes que j'ai prises de sensations autour de la musique de Frank Sinatra, certaines pages, pas tout, hein, mais certaines pages du livre. J'écoute énormément de musique, ça me nourrit, j'en ai besoin. Quand je dis ça me nourrit, c'est vraiment, ça peut me manquer affreusement si je n'ai pas écouté suffisamment de musique. Des choses très différentes, hein, ça va de la musique classique au tango, au jazz que j'écoute beaucoup, particulièrement le jazz des années 60, hein, que j'aime énormément. J'ai besoin de l'intensité de la musique pour écrire. Il y a quelque chose que la musique arrive à faire, que les mots tentent de faire. J'ai l'impression qu'on court après, après cette intensité-là, si on arrivait à dire en une phrase autant de choses qu'un compositeur en une phrase musicale. Voilà, pour moi, c'est une sorte d'horizon. Je lis souvent mes textes pour moi à voix haute. Même je ne soumets aucune page à mon éditeur sans l'avoir lu, entendu, écouté. Je travaille beaucoup le rythme. Je ne sais pas si on l'entend toujours. En tout cas, moi, je sais que j'y suis très sensible. Que si une phrase ne sonne pas bien, je ne la garde pas. C'est qu'elle ne va pas. La musique, c'est sûr, est très, très présente dans ma vie, déjà quotidienne. Et je crois dans mon écriture, oui.
La sonate numéro 1 de Domenico Scarlatti par Scott Ross au clavecin, un choix de Jean Rouault. Thank you.
ce narrateur absent, dissimulé derrière le rempart de ses morts, c'est justement ce qui avait heurté l'éditeur une fois achevée la lecture du manuscrit. Au point de s'en étonner, comme s'il avait retourné le texte dans tous les sens pour y chercher l'image dans le tapis, et ne l'ayant pas trouvé, m'en faisant le reproche. Ce reproche était d'autant plus surprenant pour moi qu'il venait de cet homme-là, dont tous les livres publiés montraient qu'il ne s'embarrassait pas de ces vieilles lunes romanesques. S'il était reconnu comme l'éditeur du nouveau roman, c'est bien qu'il se démarquait de l'ancien. De tous les autres, faisant le même métier que lui, j'aurais considéré qu'ils étaient dans leur rôle, exigeant une histoire en ligne, une intrigue, des personnages bien campés, des explications sur la relation entre la cause et les effets, et j'aurais haussé les épaules, attendant que passe ce catalogue des idées reçues, avant de dévaler précipitamment les escaliers et, une fois dans la rue, les renvoyer d'où ils venaient, c'est-à-dire tout droit du XIXe siècle et de l'antre de la réaction la plus crasse. Ce qui n'était évidemment pas le cas du grand homme sévère au crâne dégarni, à la couronne de cheveux blancs coupés ras, au visage osseux qui me faisait penser parfois au vieux Mauriac. Il avait été par exemple éditeur de Samuel Beckett, mort 3 mois plus tôt, dont le grand poster en noir et blanc ornait le bureau face à son fauteuil, seul portrait au milieu des livres de la maison garnissant les 2 bibliothèques disposées en angle, sorte d'iconostase sur laquelle il lui suffisait de poser les yeux pour voir surgir à travers le regard d'aigle les silhouettes hallucinées de Molloy et de Malone, de Didier et Gogo, de Winnie et Willy, et être rappelé instantanément à l'ordre poétique du maître de la dissolution des corps et de la langue. Mais au-delà de la grande figure littéraire, il voyait surtout le visage de son ami. De lui, à sa mort, il avait dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un tel être pût exister. Et une autre fois, qu'il ne lui connaissait que des qualités. Il émaillait sa conversation de souvenirs et de propos de celui qu'il appelait familièrement Sam. Et à chaque fois, on sentait une vive émotion dans sa voix. Sam avait été la rencontre de sa vie. Sur tous ses auteurs, et même les plus fameux, il pouvait parfois être amené à émettre une réserve. Sur Sam, jamais. Sam a dit, sa parole avait quelque chose de sacré.
Sais-tu, ma belle, que les amours les plus brillantes ternissent le sale soleil du jour, le jour les soumet au supplice. J'ai une idée inattaquable pour éviter l'insupportable avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît.
Non, je t'embrasse et ça passe, tu vois bien. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu croyais pouvoir t'en sortir en me quittant sur l'air du grand amour qui doit mourir. Mais vois-tu, je préfère les tempêtes de inéluctable à ta petite idée minable. Avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût, brisons la dis-tu.
Mais tu m'embrasses et ça passe, je vois bien. On se débarrasse pas de toi comme ça. Je pourrais t'éviter le pire,
mais le meilleur est à venir.
Avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît.
Non, je t'embrasse et passe. Tu vois bien
avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût.
Brisons la l'attitude,
mais tu m'embrasses et ça passe. Je vois bien. Débarrasse pas de toi comme ça.
On se débarrasse pas de moi comme ça.
Alex Baupin, Camélia Jordana, Avant la haine. C'est complètement vous, cette chanson. Ça vous ressemble tellement, mais pourquoi, au fond ?
La rencontre avec la chanson, c'est très mystérieux parce que la chanson est un genre qui ne s'appuie pas sur les artifices de la poésie, par exemple. Là, dans cette chanson, quand elle dit « on ne se débarrasse pas de moi comme ça », c'est absolument bouleversant, c'est une phrase de, banale apparemment, et soudain, on voit cette jeune femme qui s'accroche et qui dit « non, non, pas comme ça », ou quand elle dit « ta petite idée minable », qui ne sait pas grand-chose. Et soudain, avec cette mélodie-là, avec cette interprétation-là, on en apprend plus sur la crise du couple, sur les règlements de compte, etc., juste dans cette, avec ta petite idée minable, que dans tous les manuels de psychologie sur comment vivre ensemble. Et la chanson, quand ça marche, a ce pouvoir-là, soudain, de parler à sa propre vie, d'être l'écho juste, parfait. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et là, dans cette mise en scène, puisqu'ils sont deux à chanter, donc avec Baupin et Camélia Jordana, donc ils reproduisent le couple, ils reproduisent une scène qui peut paraître violente, puisqu'il est question de coups, etc. Et puis il y a cette jeune femme qui, tout en haut de la mélodie, qui dit non, au moment où on va se débarrasser d'elle, non, 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 pas du tout, ça ne va pas se passer comme tu dis. Et puis elle est tellement bouleversante, tellement émouvante, qu'évidemment, on n'a pas envie de s'en débarrasser, ça c'est sûr.
Mais la chanson, c'est une vieille histoire chez vous, Jean Rouault. D'abord, vous avez écrit des chansons, vous en avez chanté et vous avez même un roman en 2012 qui s'appelait Une façon de chanter. Qu'est-ce que ça peut apporter à vos romans ? Est-ce qu'il y a un va-et-vient entre votre écriture romanesque et les chansons ?
Ça a été très important, la chanson, au début des années 70, où l'expérimentation littéraire et poétique était très contraignante, était en plus sans fantaisie. Hein, c'est la période telle quelle, la période structuraliste. Vraiment, ça rigolait pas du tout. Il n'y avait aucun humour. Au lieu que dans la même période, pareil comme ce que je disais tout à l'heure pour la création en général, on tentait de déconstruire la chanson, mais avec une fantaisie formidable. C'était Jacques Higelin, c'était Dick Annegarn, c'était des gens qui s'affranchissaient des codes de la chanson hérités de Brassens, etc., pour inventer littéralement et avec une fantaisie formidable. La chanson offrait cet espace de fantaisie qui était quasiment interdit dans la création littéraire, où là on était avec la 16, avec la mort du roman et compagnie. Et la jeunesse était de ce côté de la chanson, quoi, vraiment. Et donc moi je me suis engouffré là-dedans, surtout que ça correspondait aussi au début de la musique folk, que j'ai un peu fréquenté, là, en jouant du violon, qui là aussi, en ramenant de vieilles chansons pleine d'inventions, de vieilles chansons. C'est une façon de se réconcilier avec la langue aussi. Il y a une chanson du Guignolo qui dit « C'est le Guignolo de Saint-Lazo, cherchez voir dans votre bousour s'il n'y a pas deux ou trois sous pour le pauvre Guignolo. » Puis le refrain, c'est « Le couteau qui est sur la table, qui regarde le gâteau, coupez-le en quatre morceaux et donnez-lui le plus gros. » Ce qui, encore une fois, syntaxiquement, est incorrect, grammaticalement, mais qui chantait, donnait une fantaisie qu'on ne retrouvait évidemment pas dans les textes contemporains. Donc je me suis engouffré là-dedans, sachant aussi que la guitare que je pratiquais était vraiment l'expression la plus intime de ma mélancolie. C'était vraiment vous êtes penché sur la guitare, c'est un dialogue entre elle et vous. Il y a aussi toute cette contrainte technique, parce que quand vous en avez marre de chanter la poupée qui fait non en trois accords, ça vous oblige à passer après plus loin, donc vous apprenez. Il y a toujours des gens pour vous apprendre une technique de picking, etc., ou de nouveaux accords et tout. Et donc c'était l'endroit où on pouvait progresser en toute liberté, sachant que la guitare à l'époque s'opposait au piano. La guitare était évidemment l'instrument de l'émancipation, voir le protestant, etc. Au lieu que le piano, c'était l'instrument bourgeois immobile, planté, la cabane noire au milieu du salon. La guitare, c'était dans le dos et sur les routes. Vous voyez, donc, elle était à la fois l'expression de la liberté et poétiquement, pour moi, d'une émancipation. Un lieu où je pouvais exprimer une fantaisie que ne permettaient pas les dictats de l'expérimentation littéraire.
C'était Laura Alcoba pour Le Bleu des Abeilles chez Gallimard, Jean Rouault pour Un peu la guerre, publié chez Grasset. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les livres de Jean Rouault et de Laura Alcoba, ainsi que sur les musiques qui les ont choisies, sur le site internet de notre émission www.francemusique.fr. Cette émission peut être écoutée pendant 3 ans et téléchargée pendant 1 an. La petite musique des livres, c'est fini pour cette nuit. Merci à Céline Parfenoff à la réalisation, Jason Taous à la technique, Mon Nourri à l'assistance de production. Samedi prochain, nous parlerons de l'art du portrait en littérature avec Lola Lafont et Colette Fellous. Merci à tous pour votre écoute et une très bonne nuit.